Voilà, nous sommes arrivés à la grotte du grand crocodile sanglier. Allez, boucanier, mettez-moi ces enfants de scorbut sur la planche des sacrifices. Ça va l'attirer en moins de deux. Ha! Ce doux grognement est toujours annonciateur d'un magnifique spectacle. Crocodile sanglier, accepte cette offrande. Punis ces blasphémateurs qui ont manqué de respect à One Piece.
Non mais ouvrez les yeux. One Piece c'est moche et en plus c'est chiant quoi.
Je suis 100% d'accord avec toi, mais il y a plus urgent là. S'il y a un Deus Ex Machina, faut qu'il se pointe maintenant.
Cible acquise, à mon signal. Feu.
Mille sabords, une embuscade. Ils ont des camouflages thermo-optiques. Pas de quartier. Oh, ne me sous-estimez pas. J'ai mangé un fruit du démon et ma puissance va...
Cible éliminée.
Cette mort de merde. Oh, mais même celle de Neji n'était pas aussi nulle.
En tout cas, le crocodile sanglier s'est barré. On est hors de danger.
Ah, et nos sauveurs vont nous ramener en ville en hélico. Tant mieux. J'en pouvais plus de cette forêt, là.
Le samouraï et la soubrette. Épisode hors série numéro 4. Collection de coffrets DVD et Blu-ray.
Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série du podcast Le samouraï et la soubrette. Un épisode un petit peu spécial vu que on va parler de coffrets et de DVD et de Blu-ray. Et au vu des collections respectives du samouraï et de la soubrette, donc de Jean et de moi-même Xavier, on va organiser ça sous forme d'interview où on va interviewer Jean, vu ma collection rachitique et mon intérêt relativement faible par rapport à tout ce qui est collection et beaux objets. Et donc on va parler avec Jean et un peu l'interroger sur sa collection, sur comment elle est, ce qu'il en a fait, pourquoi il le fait, etc. Du coup, merci Jean de te prêter au jeu.
Merci à toi pour la proposition.
Donc première question, tout simple. Comment tu résumerais ta collection en chiffres ?
Alors, histoire de rester concis, en termes de chiffres, on va parler d'une petite dizaine de coffrets au format A4, de quelques coffrets à des formats un petit peu exotiques, des formats forcément qui peuvent être plus grands que l'A4, ou plus grands que les formats Blu-ray classiques, mais pas non plus des tailles astronomiques, et quelques dizaines de longs-métrages et séries de Japanimation qui vont de la petite boîte Blu-ray toute simple à des coffrets de taille tout à fait modeste, avec simplement un disque et un petit livret, ou un petit artbook, ou un petit storyboard.
Voilà, avec aussi, donc peut-être qu'on détaillera, mais des steelbooks ou un emballage carton un peu autour, etc.
Ouais, okay. Y a un petit peu de tout.
Effectivement. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'avoir ce genre de collection ?
Alors, c'est vrai que j'aime bien la partie bel objet, comme tu le mentionnais. Il y a aussi, donc c'est le format physique en lui-même et pas forcément un coffret avec des bonus. J'apprécie de posséder l'œuvre que j'ai envie de regarder. Les offres dématérialisées sont forcément très intéressantes si on continue à regarder en permanence de nouvelles choses. Par contre, le catalogue peut tout à fait, pas forcément diminuer, mais avoir des œuvres qui disparaissent. Je prends l'exemple de Kill la Kill sur Netflix, qui n'existe plus. Et aussi, j'apprécie les efforts que font les distributeurs sur les coffrets, donc pas sur la partie design du Blu-ray. Authoring du Blu-ray, mais sur la partie design du coffret, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils reprennent le concept de l'œuvre ou ses gimmicks ou son design graphique, son ton, etc. Et comment ils appliquent ça sur la boîte, sur les disques en eux-mêmes, sur les livrets, etc. Et généralement là-dessus, ils font de gros efforts.
C'est vrai que tu mentionnais la partie dématérialisée par rapport au physique. C'est vrai que ce serait je sais pas, le sujet potentiel d'un autre HS, clin d'œil.
Oui, oui, wink wink, je pense qu'il y a matière, en effet.
Mais là, tu parlais plus un peu plus de l'objet. J'ai envie de demander, comment toi, tu choisis un coffret, avec quels critères t'as envie de dire, tiens, ce coffret-là, j'ai envie de l'acheter.
Alors généralement, il y a deux cas, soit je me suis dit, tiens, je vais me prendre tel animé ou tel long-métrage en Blu-ray, Donc ce qui va me motiver, c'est soit le coffret a l'air vraiment sympa en termes de bonus, de petits à côté, je me dis tiens ok, c'est un peu plus cher mais je peux me le permettre, c'est cool, je vais prendre ça. Soit sinon je vais prendre l'édition de base parce que j'ai simplement envie de revoir l'œuvre. Et il y a aussi les animés que je prends un peu à l'aveuglette. Alors pas forcément 100% à l'aveugle, c'est-à-dire soit ce sont des séries dont on m'a parlé, que je sais à coup sûr que je vais aimer, soit effectivement c'est « Ah oh ben tiens, ça a l'air sympa, le coffret est en promo, fais voir le synopsis, oh ben ça a l'air cool, et allez hop, je le prends ». Si je prends l'exemple typique de Bigata Ichikai, donc Yamada ma première fois, je regardais sur un site où j'achète régulièrement des coffrets ou des boîtes classiques, j'ai vu ça en promo, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce titre, quoi ? Yamada, ma première fois, mais ça a l'air, mais naze, quoi. » Du coup, je regarde le synopsis, je me fais « C'est débile, mais peut-être que ça peut être rigolo. » J'ai essayé de regarder le premier épisode sur le net, parce que ça se trouvait facilement. J'ai pas tenu 10 minutes, tellement les sous-titres étaient immondes. Mais je me suis rendu compte que j'étais déjà presque plié de rire. Et du coup, je me suis dit bah, « c'est à coup sûr, ça va me plaire. » Et hop, j'ai pris. Donc des fois, c'est vraiment à l'aveuglette. Je dis « Allez, hop, dans le panier, et puis on verra bien. » Et des fois, j'ai quand même... 2-3 éléments qui me font savoir que ça devrait me plaire, normalement.
Donc, si je résume, on a d'un côté le côté qualité de l'œuvre pour quelque chose que tu as envie de revoir, de l'autre, éventuellement un facteur découverte de l'animé, quelque chose que tu n'as pas forcément vu, mais qui peut te plaire.
Oui.
Mais tu as aussi un peu parlé de coffret bien fait. Là, ça m'intéresse aussi bien. C'est quoi un packaging qui te plaît ? C'est quoi l'élément d'un coffret qui va te plaire de façon extérieure, hors vraiment contenu ?
Oui. Dans les objets, alors généralement, ils font beaucoup d'efforts sur le packaging des disques. Donc, c'est-à-dire que les disques, ça peut être en plusieurs formats, du format A4 où tu le parcours derrière un livre et en fait ce sont des disques qui sont rangés dans les pages. Ça peut être le format classique des disques qui sont repliés sur eux-mêmes et insérés dans un petit rangement. Donc, généralement, ils font beaucoup d'efforts sur l'impression, sur les disques en eux-mêmes et sur les contours. Et en termes d'objets bonus à côté que j'apprécie, c'est surtout les carnets du type storyboard. Artbook ou plans, tout ce qui est concept art de personnages et surtout en fait les prototypes, les gribouillis. Donc si je prends l'exemple de Kill la Kill, on va trouver beaucoup de dessins de prototypes des personnages qui sont du coup faits au crayon, à main levée. En storyboard aussi, ça arrive qu'il y ait donc les amis qui soient accompagnés d'un storyboard, donc ça va être au format pareil, au format dessin, en manuscrit. Et généralement sont des trucs qui m'intéressent. Il y a aussi des coffrets où tu vas trouver des petites lithographies au format carte postale ou au format A4 qui sont sympas, mais finalement j'en placarde pas mes murs, quoi. Donc ça m'intéresse un peu moins. Et il y a aussi des guides d'épisodes, parfois un petit livret qui dit simplement numéro d'épisode, le titre et le synopsis rapidement. Et ça, pareil, bon, c'est sympa de l'avoir inclus, mais pour le coup, ça se trouve très facilement sur le net et il suffit de regarder l'animé pour savoir ce qui s'y passe, en fait. Donc, c'est un peu moins intéressant. Donc, je suis plus friand de tout ce qui est dessin, proto et storyboard.
Donc, évidemment, tu es fidèle à ta réputation. Donc, le mot « Kill la Kill » a été prononcé. est-ce que c'est le premier de ta collection ?
Oui.
ça date de quand, du coup ?
Alors, c'était en 2015. Donc, j'ai déjà raconté l'histoire dans le premier épisode. J'avais acheté un lecteur Blu-ray et un logiciel qui sont assez chers. Ça coûte de 100 à 150 balles facile, le soft. Je voulais tester si ça fonctionnait. Je voulais louer un Blu-ray. Et à la médiathèque, il y avait soit Interstellar, soit Kill la Kill.
Est-ce que c'est la plus belle pièce de ta collection ?
Alors, vu qu'on ne parle pas de l'animé, mais du coffret... non, clairement pas. C'est un joli coffret. Il y a un rangement qui est sympa, qui est en fait une espèce d'ouverture en boîte de thé qui contient les deux parties du coffret. Donc en fait, la partie 2 du coffret était vendue avec un rangement pour mettre les deux moitiés de coffret. Ça fait partie de mes plus chers, par contre. Je crois que en termes de prix rapporté au temps de visionnage des épisodes. À part éventuellement Overlord qui était aussi très cher, Kill la Kill doit être parmi, si ce n'est l'animé le plus cher que j'ai, dans des coffrets qui ne sont pas au format démesuré du format A4 immense, hein. Et du coup l'œuvre la plus jolie, ce serait, je pense que c'est mon coffret de Ghost in the Shell, qui est un format un peu plus grand encore que l'A4.
Le film ?
Alors du coup il y a les Ghost in the Shell Standalone Complex. Donc les standalone et les complexes qui sont la première série animée, et il y a aussi dans les longs métrages de standalone complexes. par exemple les 11 individuels. Je sais plus combien il y a de longs métrages, s'il y en a un, deux, mais en tout cas ils y sont aussi.
Tu parlais de goodies plus ou moins intéressants. C'est quoi le goodies le plus original que tu as pu avoir dans un coffret ?
Le plus original, je sais pas vraiment s'il y a eu des goodies originaux. Je dirais si que ça est arrivé que les lithographies soient vraiment au format carte postale, à tel point que je me suis demandé en fait si c'était pas prévu pour être utilisé comme tel, et je me demande si j'envoyais les vœux de bonne année à une grand-mère avec je sais pas du Spice and Wolf ou du Akame ga Kill dessus, est-ce qu'elle comprendrait quoi.
Donc, tu avais déjà raconté l'histoire de comment tu as commencé ta collection. Pourquoi ne pas avoir commencé ta collection avec du DVD et sachant que tu as commencé directement avec du Blu-ray, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est le cas. Ouais. J'ai quelques DVD dans ma collection, surtout pour des œuvres en fait qui n'étaient pas dispo en Blu-ray ou qui l'ont été dispo, mais bien après. Donc, par exemple, j'ai les Serial Experiments Lane en DVD. Ils ont été édités en Blu-ray depuis, mais moi j'avais déjà le DVD depuis des années quand le Blu-ray est sorti, et du coup je l'ai pas racheté. Justement en fait, j'apprécie aussi le cinéma et l'animation dont japonaise. J'en regarde pas mal et j'apprécie le support physique pour plusieurs raisons qu'on a déjà commencé un peu à évoquer. Et donc j'avais voulu passer le cap directement, me dire tiens, les Blu-ray c'est quand même sympa en qualité. Sur un disque de 50 gigas, tu peux mettre des trucs un petit peu sympas, donc ce serait cool que j'essaye. Et du coup, j'avais acheté le lecteur, donc je suis passé directement au Blu-ray. J'avais quelques DVD à cette époque-là, de 2-3 films qui se couraient après, mais pas d'animé.
Merci pour la plupart de tes réponses, parce qu'il y en a qui m'ont pas plu, genre dire que Kill la Kill c'est bien, je comprends pas. C'est bon, il est pas en train de s'énerver, il est en train de devenir rouge, hein, si vous voyez pas. Il boue, il a envie de s'énerver, il a envie de me tuer. Mais, non, je veux plus pour rester plus sérieux. Souvent, les éditeurs vendent les coffrets en disant, la plus-value c'est les goodies et c'est surtout le doublage VF. C'est souvent ce qui est mis en argument de vente. Ces derniers temps, on a de plus en plus de coffrets, voire des coffrets collector qui sont uniquement en VOST. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de pratique ?
Dans l'idée, ça me plaît pas bien, en fait. Je dois admettre qu'il y a quand même pas mal d'œuvres que je regarde essentiellement en VOST. On a déjà parlé, il y a des VF que j'aime bien, mais il y a quelques persos qui me gênent un peu. Genre par exemple, Black Lagoon, elle est très cool, mais je préfère quand même la VO, donc je vais le regarder en VO. On a pu parler du coup rapidement de Dragon Maid récemment. La VF est sympa aussi, mais je le regarde en VOST généralement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme pour le cinéma. Ça m'est arrivé de faire des séances en VOST avec des collègues et j'aimais pas bien parce qu'ils me disaient mais pourquoi t'aimes pas l'anglais machin etc. Je dis déjà je suis pas bilingue. J'ai une très bonne maîtrise de l'anglais technique dans ma profession, mais je suis loin d'être bilingue en général. Donc je dois quand même admettre que des fois les gens ils parlent naturellement hein, donc ils parlent vite, donc je suis pas capable de suivre à 100%, je vais devoir me servir des sous-titres. Même si j'avais pas à m'en servir, ils seraient là sur l'écran, et le fait de lire les sous-titres ça demande une attention et ça s'accapare une partie de ton attention que tu aurais pu diriger sur l'image. Et ça m'embête parce que, et je le sais quand je regarde des animés en VOST, il y a des détails auxquels j'apporte pas ou peu d'attention parce que je suis en train de me concentrer sur les sous-titres. Et du coup, au cinéma, pourquoi ça me faisait chier? Parce que c'était pas un film que j'avais téléchargé, que je regardais comme un sagouin chez moi, j'ai payé une place, parfois à 12, 13, 14 ou 15 balles, la séance en 2D pour une personne. Ça me fait chier que qu'il n'y ait pas eu ce qu'il devrait y avoir derrière quand on y met cet argent, c'est-à-dire une adaptation, des comédiens d'engager, un projet de doublage de lancer, et un truc de bonne qualité, surtout quand on voit les adaptations et les comédiens qu'on a en France sur les films à gros budget et les animés avec des budgets corrects, on a des super tafs qui est fait et c'est dommage. Et pour les coffrets, du coup, c'est pareil. Si je me dis cet animé, je l'ai déjà vu ou j'en ai entendu parler ou je l'ai vu en version moche en DVD chez quelqu'un, j'ai envie de l'avoir en Blu-ray. Si j'achète le coffret, j'avoue que ça me fait chier qu'il n'y ait pas la VF, même si c'était un animé pour lequel je suis sûr à 80% que je le regarderai presque qu'en VOST en fait. Mais ne serait-ce que pour le principe.
Là, je suis globalement d'accord avec toi, même si même moi qui achète peu de coffrets, un des coffrets qui me fait de l'œil pour cette année 2021, clairement, il est en VOST parce que la VF n'existe pas à ma connaissance. Mmh. Eh ben, merci en tout cas pour tes réponses. Merci d'avoir un peu fait partager de ta collection aux gens qui nous écoutent.
Eh ben, merci à toi pour les questions et merci à vous pour votre temps et pour votre écoute.
Eh ben, on vous laisse avec les résultats du sauvetage inattendu de Taro et d'Illicus. Et on vous dit à la prochaine.
À la prochaine.
Périmètre sécurisé. Je m'approche des cibles.
Ah, eh bien, merci de nous avoir tiré de là. On va pouvoir...
Non, mais qu'est-ce que...
Aramaki, ici bateau. Les chatons sont dans le panier. Je répète, les chatons sont dans le panier. Je les ramène à la base. Ils vont nous dire tout ce qu'ils savent sur le club.
Au fait, Jean, quand je parlais de ta collection en chiffres, t'aurais pas un peu esquivé la question du pognon ?
Hein ? Quoi ? Le pognon ?
Oui, en gros, combien ça t'a coûté de rassembler tous ces coffrets et tous ces animés ?
Ah, en prix d'achat, je crois que je préfère même pas faire le compte. J'ai trop peur du résultat, je crois.
D'accord, je vois, je vois. Bon, au moins, on aura l'occasion de voir un peu toute ta collection en photo sur le site.
Ouais, promis.